je vous le lirai. J'étais pris un peu avec la technologie ce matin. Donc, on va prier et on débute tout de suite. Alors, Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce moment que tu nous permets de passer ensemble dans l'étude de ta parole. Tu nous as déjà bénis avec le début de notre psaume hier lors de l'Assemblée. On te demande, Seigneur, encore une fois, de nous parler, d'ouvrir notre entendement et de poser ta main sur nous. Permets-nous, Seigneur, de saisir ta pensée, d'orienter nos vies en conséquence et de te voir agir dans notre vie pour l'avancement de ton royaume. Alors, nous t'avons prié avec cette assurance que tu entends et que tu réponds encore aujourd'hui aux prières de tes enfants. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, voici ce que nous dit le psaume 121. Je vais relire par la suite le verset 3 et 4 qui nous servent de méditation aujourd'hui. Mais on commence au verset 1, psaume 121. « Cantique de degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Je relis le verset 3 et le verset 4. « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Une dernière fois, tous ensemble. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Hier, on a effectivement débuté cette série d'enseignements qu'on va développer tout au long de la semaine avec la thématique « Secours assuré ». « Mon secours est assuré ». Quand le roi David fait ce psaume, il a déjà passé par des moments difficiles, il a traversé des circonstances dangereuses dans son existence, il est là sur son trône à Jérusalem et il regarde autour et il sait que des dangers le guettent. Il sait que plus les jours avancent, plus les dangers sont nombreux. Et là, il pose la question, mais c'est une question à laquelle il a déjà la réponse et je crois que l'important pour lui n'est pas la question en soi, mais la réponse simple qu'il va accorder ou lancer à tous. Et sa réponse, c'est « Le secours me vient de l'Éternel ». La question étant « D'où me viendra le secours ?» Et il veut que ce soit clair et on veut que ce soit aussi clair pour nous tous aujourd'hui. Le secours nous vient de l'Éternel. Hier, on a présenté ça un peu comme un axiome, quelque chose qui existe et qu'on n'a pas le besoin de prouver. Et lorsqu'on croit en Dieu, lorsqu'on croit au Dieu de la Bible, on croit effectivement que ce Dieu veille sur ses enfants, que ce Dieu veille sur son peuple. Alors nous avons cette assurance en tant qu'enfants de Dieu qu'il est là en train de veiller sur nous. Et aujourd'hui, il nous dit « Il ne permettra pas point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. » La première chose qu'on doit dire, c'est que le terme qui est utilisé ici, « il ne permettra pas », ça a deux aspects. Un, il ne permettra pas qu'on fasse chanceler ton pied. Donc, il ne permettra pas qu'il t'arrive quelque chose pour te freiner, pour que tu perdes des forces, pour te ralentir dans ton chemin. Mais de surcroît à ça, lorsqu'il dit « il ne permettra point », c'est qu'il faut que ça soit clair aussi que Dieu ne t'envoie pas te perdre. Lorsque je parlais de ma maladie régulièrement, j'ai fait l'analogie avec la boxe et je disais « lorsque le Seigneur t'amène dans un ring de boxe, lorsqu'il t'amène dans un moment où tu vas combattre, il ne t'amène pas là pour te perdre. » J'avais cette image un peu de l'entraîneur de boxe qui va entre deux rounds où son boxeur s'est bien fait amocher. Il va le voir en lui disant « Hey, je t'ai amené ici pour que tu gagnes. Je t'ai amené ici parce que je t'ai donné tout ce que tu avais besoin pour gagner ce combat. » Alors, quand nous avons un Dieu comme le nôtre, quand nous avons un entraîneur comme Dieu l'est pour nous, lorsque nous avons un Père céleste comme Dieu l'est pour nous, il nous faut avoir cette assurance que peu importe les circonstances par lesquelles on passe, peu importe les chemins que prenne notre vie, lorsque cette vie, effectivement, elle est sous le contrôle de l'Esprit-Saint, alors ces endroits où nous passons guidés par le Saint-Esprit sont des endroits où nous devons remporter victoire. Remporter victoire ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Remporter victoire ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bataille. Remporter victoire ne veut pas dire que la chose se fait facilement. La chose qui nous est assurée, par contre, c'est que le résultat final nous est déjà acquis, nous est déjà accordé comme étant une victoire. Et c'est beaucoup plus facile de se rendre au combat. C'est beaucoup plus facile de parler à n'importe quel athlète. C'est beaucoup plus facile pour n'importe quel athlète de concourir lorsqu'il a cette assurance gravée à l'intérieur de lui que la victoire lui est déjà acquise. Lorsqu'un boxeur rentre dans un ring, il ne rentre jamais sur le ring ou il ne monte jamais sur le ring en se disant « il se pourrait que je perde ». Non, il monte dans le ring en se disant « je vais gagner ». Je vais peut-être causer une surprise, je vais peut-être devoir me battre jusqu'au 12e round, jusqu'à 2 minutes 59 du 12e round, mais si ça me prend un KO au 12e round, je vais arriver à passer ce KO à mon adversaire. Un sportif d'élite, un sportif de haut niveau, un sportif qui a l'habitude de compétitionner, va apprendre, oui, à vivre avec la défaite, mais lorsqu'il se présente à la compétition, il y va toujours avec cette pensée qu'il est vainqueur. Et vous et moi, étant enfants de Dieu, nous sommes toujours vainqueurs. Donc Dieu n'est pas là pour que tu te perdes. Dieu n'est pas là pour que tu perdes tes forces. Dieu n'est pas là pour que tu trébuches et que tu te blesses. Dieu n'est pas là non plus pour freiner ta progression. En fait, pour lui, il voudrait que ta progression soit constante, soit visible, soit énorme quotidiennement. Si nous peinons à avancer, c'est davantage parce que on saisit mal la voix de Dieu, davantage parce que on ne s'y soumet pas pleinement, davantage parce que notre cœur, malgré tout, malgré la rédemption et malgré le salut, notre cœur est encore enclin à l'iniquité ou au péché. Mais plus nous venons à connaître Dieu, plus nous venons à développer cette intimité avec Dieu, plus notre progression sur le chemin de la vie, sur le chemin que Dieu trace devant nous, se fait avec aisance et se fait avec rapidité. Donc, il est important pour toi et pour moi de saisir une chose ce matin. C'est peut-être la chose la plus claire que tu dois saisir pour ce matin. Dieu n'est pas là pour que tu te perdes. Dieu n'est pas là pour que tu perdes tes forces. Dieu n'est pas là pour que tu trébuches. Dieu n'est pas là pour freiner ta progression. Il veut que tu avances, il veut renouveler tes forces, il veut assurer ton pas, assurer tes chevilles, assurer tes pieds. Il veut aussi que il veut même faire progresser, avancer ton cheminement devant lui. Donc Dieu est là pour ton succès, non pas pour ta défaite. Il y a trop d'images fausses qui sont véhiculées à propos de Dieu, où on présente Dieu comme étant là pratiquement à nous mettre des crocs en jambes, à nous faire des petites jambettes pour qu'on tombe, et puis si on tombe, il va nous apprendre l'humilité, où Dieu veut enlever l'orgueil, donc paf, il nous fait une petite jambette, paf, il nous met un bâton dans les roues pour qu'on s'écrase au sol. Ce n'est pas le genre de Dieu que nous avons. Un Dieu comme ça ne pourrait pas être appelé le bon Dieu. Un Dieu comme ça ne pourrait pas être appelé le bon berger. Un Dieu comme ça ne pourrait pas être appelé notre Père, notre Papa céleste, notre ami fidèle, notre conseiller. Ça serait totalement contraire à la nature même de Dieu. Donc l'objectif de Dieu, c'est que tu progresses en tout instant et que tu avances de progrès en progrès et de gloire en gloire et de réussite en réussite. Donc Dieu est là pour s'assurer que ni les gens autour de toi, ni les puissances célestes autour de toi ne puissent venir te faire chanceler. Par contre, tu peux affaiblir ton propre corps. Par contre, tu peux mettre ton pied dans des endroits dangereux. Par contre, tu peux toi-même affaiblir ta résistance et affaiblir ta progression. Dieu va empêcher tous les autres de le faire, mais Dieu ne passera pas sur le droit que toi tu as par rapport à ton propre corps et par rapport à ta propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on sait que les signes vitaux ou les éléments vitaux d'une vie chrétienne sont la prière, sont la lecture de la parole de Dieu, sont la louange, l'adoration. Mais si tu ne fais rien de cela, ta vie spirituelle ne peut pas progresser. Ton corps spirituel ne peut pas se fortifier. Le seul moyen que tu puisses te fortifier spirituellement, c'est si effectivement tu as communion avec Dieu à travers la prière, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers l'étude de la parole de Dieu, à travers la louange, l'adoration, le jeûne. Voilà des moyens qui nous sont donnés pour nous fortifier spirituellement. Mais si je laisse tout cela choir tout au long de la semaine, et que je me contente d'un petit repas occasionnel lorsque c'est Pâques, Noël, lorsque c'est l'anniversaire ou le mariage de quelqu'un et puis j'écoute une prédication, ou lorsque je suis très très triste et puis là je vais chercher quelques chants religieux ou de louanges sur Internet, si ma communion avec Dieu se limite à ça, je vais être achidique spirituellement, je vais être affamé spirituellement, probablement que je vais tomber en lambeaux tellement je ne me suis pas nourri, tellement je ne me suis pas fortifié. Alors voilà pourquoi il est important de comprendre. Dieu va empêcher à tout ce qui est autour de toi de venir t'empêcher de progresser, mais il ne t'empêchera pas à toi d'être ton pire ennemi par rapport à ta propre progression. Donc, il est de ta responsabilité à toi de veiller à ta santé spirituelle. Dieu va t'exhorter, notamment ce matin à travers l'humble serviteur que je suis. Dieu te rappelle que tu as besoin effectivement de lire sa parole, de passer du temps dans l'intimité avec lui. Mais Dieu ne le fera pas à ta place et Dieu ne te donnera pas le bénéfice de ces pratiques spirituelles si tu ne les as pas eues, si tu ne les as pas faites. Donc, Dieu n'est pas là pour te perdre, mais si toi, tu décides de ne pas t'alimenter correctement spirituellement, ben Dieu ne va pas faire ce que toi, tu as décidé de rejeter. Donc, Dieu veille sur toi. Lorsqu'il dit « ne permettra pas que ton pied chancelle », il nous dit par la suite « celui qui te garde ne sommeillera pas ». Ça veut donc dire « si je ne sommeille pas », ça veut dire que je suis éveillé, ça veut dire que je veille. Le Seigneur veille sur toi. Le terme « garder » qu'on va voir de différentes manières cette semaine, parce qu'il revient à différentes occasions, c'est le terme hébreu « shamar ». S-H-A-M-A-R. Je répète pour ceux qui prennent des notes. « Garder, shamar, S-H-A-M-A-R ». Et ici, le mot que je vais identifier ce matin, c'est le terme « veiller » ou « observer ». Dieu est toujours là en train de veiller sur toi. Dieu est tout le temps là avec son regard posé sur toi. Et c'est une notion importante de savoir que peu importe où je me trouve, peu importe l'endroit où je suis, peu importe le moment auquel je me trouve dans un endroit, le regard de Dieu est toujours, 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 toujours posé sur moi. Et David va même relancer cette idée avec une image encore plus grande en disant que « il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël ». Celui qui te garde ne sommeille point, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Donc Dieu est toujours là en train de veiller sur toi. Il regarde ce qui se passe dans ta vie. Il regarde ce qui se passe autour de toi. Il regarde ce qu'on est en train de faire à ton encontre. Il regarde ce qu'on est en train de faire aussi pour te bénir et pour te fortifier. Il regarde tous les détails, toutes les facettes des choses qui te concernent. Dieu est intéressé par ta vie. Dieu n'est pas là en se disant, ben, j'ai prévu qu'en telle année, lui, il revienne me voir ou il passe dans l'éternité, fait qu'on parlera à ce moment-là. Non, depuis le jour de ta naissance, depuis le jour de ta création, et avant même cela, puisque dans la pensée de Dieu, tu existais déjà, dans la pensée de Dieu, tu avais déjà un début, tu avais un développement, il y avait aussi une fin qui arrivait. Chacun des détails de ta vie était déjà connu, était déjà important et intéressait déjà Dieu. Ça veut donc dire que peu importe qui tu es, quelle que soit ton histoire, quel que soit ton vécu, quelle que soit même ta relation actuelle avec Dieu, ta vie intéresse Dieu. Ton devenir intéresse Dieu. Ton existence dans l'ensemble de ce qu'elle représente intéresse Dieu. Et lorsque je remets ma vie à Dieu, lorsque je lui demande effectivement d'être mon Seigneur et mon Sauveur, et quand on parle de Seigneur, on parle effectivement de celui qui conduit, de celui qui dirige, de celui à qui appartient la vie, lorsque je lui remets ma vie et que je lui dis « Seigneur, prends ma vie et fais-en ce que tu veux », Dieu veille sur ma vie et Dieu veille sur tout ce qui englobe mon existence. Donc Dieu, si tu es un de ses enfants, Dieu veille sur toi actuellement. Il n'y a pas une chose qui n'est survenue dans ta vie qu'il ne connaissait et pour laquelle il n'avait pas la réponse, la solution ou l'intervention nécessaire. Peut-être que son intervention n'est pas celle que tu aurais voulu, mais comme on l'a déjà expliqué à travers les dernières semaines, tout ce que Dieu fait est parfait. Et même pour la situation difficile que tu pourrais rencontrer actuellement, il a exactement la chose appropriée pour celle-ci. Peut-être que Dieu t'arrête actuellement dans tes activités. On sait que la plupart d'entre nous, de ceux qui m'écoutent en tout cas, sont dans une espèce de confinement depuis le mois de mars, le mois de février pour d'autres en Europe. Donc, on est dans un rythme d'activité plus lent ou plus restreint. Peut-être que Dieu favorise cette chose-là dans ta vie actuellement pour que tu prennes plus de temps justement pour fortifier ta vie spirituelle. Avoir le confinement, ça a fait en sorte qu'à tous les matins, maintenant, on se retrouve pour partager un moment dans la parole de Dieu. Dieu le savait, Dieu a inspiré et Dieu pourvoit encore aujourd'hui pour que malgré notre confinement et malgré les circonstances qui nous sont pénibles et lourdes pour plusieurs, il nous permet malgré tout d'avoir un contrebalan qui sont ces bénédictions matinales pour qu'on puisse se fortifier en dépit de la situation éreintante et de la situation demandante que l'on peut traverser actuellement. Donc Dieu veille sur toi. Mais lorsqu'il dit qu'il ne sommeille ni ne dort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne se lassera jamais de veiller sur toi. Il ne peut pas te regarder puis dire à un moment donné, « Ben là, ça fait 48 ans que je le regarde et c'est suffisant, je passe à autre chose. » Non, Dieu ne se lasse pas de regarder ses enfants. C'est un peu comme le papa qui reste perpétuellement et éternellement admiratif devant cet enfant, qui bien qu'il ne soit plus un gamin, devient un jour un barbu tout joufflu comme moi, ben le papa reste admiratif par rapport à cet enfant-là. Notre Père est comme cela. Notre Père nous regarde et nous restons pour lui sa création. Nous restons pour lui ses créatures. Nous restons pour lui ses fils, ses filles, dans lesquels il prend plaisir et pour lesquels il a tant d'affection. Donc Dieu ne se lasse pas de veiller sur toi. Ne pense pas que tu es arrivé à un endroit et puis telle tuile te tombe sur la tête et tu dis « Ah, mais c'est parce que Dieu ne m'aime plus. » Dieu t'aime. Il t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour que tu sois sauvé. Dieu t'aime tellement qu'il veille et qu'il ne peut faire autrement que de veiller sur toi. C'est pas que ça lui est imposé, c'est que dans la nature même de Dieu, cet amour, cette compassion qu'il a, fait en sorte qu'il ne peut cesser de veiller sur toi tant il t'aime et tant il a de compassion pour toi. Dieu ne se lassera pas et Dieu ne relâchera pas non plus son travail de veille. Certaines personnes ne se lassent pas, mais à un moment donné, la fatigue les prend et puis deviennent un peu moins méticuleux dans leur travail. On pense aux gardiens de sécurité. Quand ça fait 20 ans que tu fais le même tour de garde, que tu fais la même ronde, à un moment donné, tu es peut-être tellement habitué à le faire que, au lieu de prendre une demi-heure pour bien regarder tout ce qui se passe à droite, à gauche, chacun des détails et tout ça, ben, tu finis par faire ton tour en 5 minutes et c'est terminé. Voilà pourquoi les services de sécurité vont avoir des feuilles à remplir en disant, oui, j'ai regardé la porte 1A. Et je coche, j'ai regardé la poignée 1B, paf, et je coche. J'ai regardé la sonnette 1C, paf, et je coche. Pourquoi? Pour ne pas tomber dans la routine qui fait en sorte qu'on devienne négligent. Dieu ne sera jamais négligent à ton égard. Il ne sommeille ni ne dort parce qu'il veille et quand il veille parfaitement. Tout ce que Dieu fait est parfait. Donc même sa veille qu'il apporte sur toi, même la veille que Dieu fait sur ta vie, le fait qu'il te surveille, qu'il veille sur toi, il le fait parfaitement et il ne se relâche pas de le faire. Un dernier point ce matin. Il dit, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Effectivement, ici, David est en train de parler à son peuple. Il s'adresse principalement aux Juifs de l'époque qui vont chanter les chants ou les psaumes que David a écrits. Donc, il est en train de dire ici, on se rappelle que c'est un psaume de degré, donc c'est un psaume qu'on chantait lorsque les Juifs faisaient le voyage, le pèlerinage de là où ils étaient, où ils vivaient sur le territoire de la Judée, et qu'ils se rassemblaient, qu'ils s'approchaient de Jérusalem. Donc, ils avaient des chants rituels, ils avaient des chants qu'ils avaient l'habitude d'interpréter en se rendant au lieu de culte et au lieu de fête. Et le psaume 121 fait partie de ces cantiques qu'on chantait en montant vers Jérusalem. Donc c'était principalement aux Juifs qu'on s'adressait. Nous sommes, la Bible nous dit, Israël spirituel. Nous sommes l'Église qui est la continuation des descendants d'Abraham spirituellement, qui sommes inclus dans cette multitude qui était supposé découler d'Abraham. Donc, le psaume nous est aussi adressé à nous. Donc, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Israël, c'est toi et moi. Est-ce que tu sais ce que veut dire Israël? J'ai déjà eu l'occasion de parler là-dessus. Vous savez que Israël, c'est le deuxième nom qu'on a donné à Jacob. À un moment donné, Jacob, lorsqu'il retourne depuis Ur en Chaldée, qu'il retourne vers la terre de Canaan, lorsqu'il retourne vers sa famille, il va avoir une rencontre avec l'ange de l'Éternel et il va se battre avec l'ange de l'Éternel en implorant que l'ange de l'Éternel le bénisse. Et lorsque l'Éternel va le bénir, il va dire, ton nom ne sera plus Jacob, Jacob qui voulait dire celui qui vole, celui qui trafique, celui qui usurpe le bien de l'autre, tu vas plutôt t'appeler Israël parce que tu as combattu l'Éternel et que tu as gagné. Et certains pensent qu'Israël veut donc dire celui qui a battu l'Éternel. C'est pas ce que ça veut dire. Certains pensent que ça veut dire celui qui a gagné contre l'Éternel. C'est pas ce que ça veut dire. Israël veut dire l'Éternel est vainqueur. Dieu est vainqueur. Elle, c'est toujours le son elle, E-L, c'est toujours éternel. C'est toujours lié avec El Shaddai, Elohim, Adonai. C'est toujours lié avec l'éternel. Et ici, Israël veut dire Dieu est vainqueur. Ça veut dire que le peuple d'Israël portait comme nom l'éternel est vainqueur. Tu portes ce nom-là en tant que juif spirituel, en tant qu'enfant spirituel d'Israël, en tant qu'Israël spirituel, tu portes ce nom-là. Dieu est vainqueur. Si Dieu est vainqueur, s'il est à tes côtés, Si tu es le temple de son esprit, tu ne peux pas faire autrement que d'aller de gloire en gloire et de progrès en progrès. Tu n'es pas appelé à la défaite. Tu es appelé à partager la victoire de ton Seigneur et de ton Sauveur. Tu portes déjà cela dans ton nom. Tu portes déjà cela dans le nom de ton Dieu. Il est vainqueur. Il est le Tout-Puissant. On a vu la semaine dernière le terme Jéhovah, Jah ou Réhovah, qui veut dire le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, celui qui est vainqueur. Aujourd'hui, tu portes toi aussi, parce que ce nom-là a été apposé sur ta vie. Tu portes ce nom-là qui dit que Dieu est vainqueur. Alors ne permets pas à ton pied de chanceler. Ne permets pas à ton corps de s'affaiblir parce que tu n'as pas pris soin de lui. Au même titre où on dit aux gens actuellement dans le temps de confinement, prenez quand même du temps pour aller marcher, prenez quand même du temps pour vous exercer, prenez quand même du temps pour faire un peu de sport, pour vous maintenir alerte. C'est un bon conseil physique, mais c'est un tout aussi bon conseil pour nous qui croyons en Dieu, de prendre soin de notre corps spirituel et de veiller à le fortifier à travers la prière, à travers l'intercession, à travers la louange, à travers l'adoration, à travers la lecture et l'étude de la parole de Dieu. Il ne veut pas que ton pied chancelle. Il s'arrange pour que personne ne puisse faire chanceler ton pied. Arrange-toi toi aussi pour demeurer fort, ferme devant le Seigneur. Voilà l'exhortation que nous avions pour ce matin. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Alors, on va prier pour terminer ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as donné. Merci, Seigneur, de nous rappeler que tu es à nos côtés en tout instant et en toute circonstance et en toute situation. Merci de nous rappeler, Seigneur, que tu veilles sur nous et que tu ne te relâches pas. Tu ne perds pas patience dans notre cas. Tu ne prends pas de lassitude par rapport à notre histoire. Tu restes attentionné. Tu restes intéressé. Tu restes celui qui veille parfaitement, constamment sur nous. Alors, Seigneur, nous ne pouvons te dire que merci. Nous comprenons, Seigneur, que nos faux pas ne viennent pas de toi. Nos faux pas, Seigneur, c'est parce qu'on a permis à des pièges de nous saisir les pieds. On a permis, Seigneur, à des traquenards de se tendre devant nous. Alors que, Seigneur, nous avons la puissance de marcher sur l'ennemi, et sur le lionceau, sur le lion, sur l'aspic, tel que tu nous dis, ô Dieu. Alors, Seigneur, nous voulons aujourd'hui prendre le temps de fortifier notre être spirituel. Je prie, Seigneur, que ma sœur et mon frère aient compris l'importance de prendre du temps dans ta parole, de prendre du temps dans la prière, de prendre du temps dans l'intimité avec toi, afin, Seigneur, que leur corps non seulement se fortifie, mais que leur corps spirituel aussi, Seigneur, suive cette même ligne directrice. Je prie, Seigneur, que ma sœur et mon frère aient à cœur aujourd'hui de prendre plus de temps avec toi, d'étudier davantage et de saisir, Seigneur, que la victoire leur est déjà acquise, mais à eux, Seigneur, d'être dans l'état nécessaire de combattre tout au long de ce chemin qui est à eux. Alors, je prie, Seigneur, que leur force soit renouvelée. Je prie que leur courage soit renouvelé. Seigneur, cette semaine, on parle beaucoup de ce qui est le courage, de ce qui est la paix, de ce qui est la tranquillité, de ce qu'est le secours. Alors ce matin, Seigneur, et comme à tous les autres matins de cette semaine, je veux prier pour la paix dans les pensées, dans l'âme et dans l'esprit de mon frère et de ma sœur. On a débuté hier avec l'enseignement et la prière qui a suivi. Ce matin, Seigneur, je veux encore appeler l'âme et l'esprit de mon frère et de ma sœur à retourner à leur repos. Que toute inquiétude, Seigneur, s'estompe juste à la pensée que tu es avec eux. Que les pensées d'inquiétude, que les tracas s'estompent en se rappelant que tu veilles sur nous parfaitement, constamment. Seigneur, tu ne nous as pas amenés jusqu'à ici pour nous perdre. Tu ne nous as pas amenés jusqu'à cet endroit précis de notre existence pour que nous nous perdions. Tu nous as amenés pour que nous remportions avec toi la victoire pour notre vie. Alors je prie, Seigneur, pour ma sœur et mon frère, que la paix s'empare d'eux, que le courage, Seigneur, les saisisse, qu'ils deviennent téméraires devant toi, téméraires pour toi, téméraires contre l'ennemi, et qu'ils soient de vaillants guerriers et de superbes vainqueurs devant toi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, quelques personnes à saluer qui se sont jointes à nous depuis tout à l'heure. Laissez-moi monter un peu. Donc, la dernière personne qu'on avait saluée, c'était la sœur Teresa. Bien sûr, on salue la sœur Dora qui se connecte habituellement avec elle. Bonjour à Denise et Gérard. Bonjour à Ramon. Bonjour à Jimmy. Bonjour à Marc. Bonjour à Mayakat. Bonjour à Lucie. Bonjour à Lise, bonjour à Farley, sa maman Marie-André, bonjour à Diana, bonjour à Marta Lucia, bonjour à Babette. Je vais laisser votre nom de famille, je vais juste y aller avec Babette, ça serait trop compliqué pour moi, mais content de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour à qui d'autre? Bonjour à Claude et à Daniel Bergeron. Bonjour à Rosie qui nous regarde de l'Alsace. Et je crois que c'est tout pour ce matin. Bonjour aussi, une dernière qui se connecte, Elisabeth Marshall. Bonjour, bienvenue parmi nous. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle nos rendez-vous cette semaine, ce soir, 19h avec le pasteur André, l'étude sur le cours sur le livre de l'Apocalypse. Mercredi soir, l'étude sur le livre de Marc avec le pasteur Sergio sur comment servir Dieu en période de défi. Vendredi soir, notre temps pour conclure la journée de jeûne et de prière. Et samedi soir, notre prière pour contrer Halloween avec la Sainte Cène. On vous demande déjà de préparer les items qui vous sont nécessaires pour la Sainte Cène. Donc, le pain d'un côté, le jus de raisin de l'autre. Ayez ça de près. Vous avez déjà 5 ou 6 jours pour vous préparer. Et samedi soir, donc, on prend donc la Sainte-Cène. Ça sera à 19h samedi soir où on se retrouvera. Sinon, tout au long de cette semaine, on se retrouve le matin à partir de 8h20, 8h30 pour notre bénédiction matinale. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Ayez du temps de qualité avec le Seigneur, profitez de sa grâce, profitez de sa présence, profitez du temps que vous avez peut-être un peu moins d'activité pour changer vos calendriers et remplir vos calendriers avec plus de temps de prière, plus de temps de louange, plus de temps à apprendre et à connaître votre Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous, au revoir.